Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, vient de faciliter la remise à l'AFC 123 de 15 personnes libérées par les autorités congolaises. Il s'agit là d'une première avancée de l'accord de Doha dans la mise en œuvre de l'engagement sur la libération des détenus pris par le gouvernement congolais et l'AFC 123. Une nouvelle ligne vient d'être franchie dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Les Nations Unies alertent sur la présence du virus dans des sites déplacés où survivent déjà des milliers de familles déracinées. L'invité de ce journal est le coordonnateur de l'ONG SAV, Secours aux vulnérables basé à Goma, au Nord Kivu. Espoir Kikuni parle du nouveau manuel publié par cette organisation sur les premiers secours psychologiques et le soutien psychosocial en milieu scolaire face au traumatisme vécu à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour au Nord Kivu. Une première avancée dans la mise en œuvre de l'engagement sur la libération des détenus pris par le gouvernement congolais et l'AFC 123 dans le cadre du processus de paix de Doha. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a facilité la remise des 15 personnes libérées par les autorités congolaises à l'AFC 123. Le CICR est intervenu comme intermédiaire neutre entre les parties. Le détail avec vous, Martial Papimukeba.
Selon le CICR, les 15 personnes toutes volontaires pour participer à l'opération ont quitté Beni par convoi dans la soirée du 6 août. Après un transit par l'Ouganda, elles ont été remises le lendemain à l'AFC M23 dans les territoires d'Rutshuru. Cette remise constitue la première opération de ce type depuis l'engagement pris par les partis dans le cadre du processus de Doha sur la libération des prisonniers conclu à Montreux en Suisse le 17 avril 2026. Le CICR précise que l'opération a été menée avec les autorités sanitaires compétentes et dans le respect des mesures de prévention contre Ebola. L'organisation rappelle être intervenue exclusivement comme intermédiaire neutre pour faciliter les transports et la remise en sécurité des personnes libérées. Le CICR espère que cette opération ouvrira la voie à d'autres libérations prévues dans les engagements entre les parties. Au total, 311 personnes réclamées par l'AFC M23 et 166 détenus liés au gouvernement sont concernés par ces mécanismes de libération facilités par les CICR. Beni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Et puis, cette nouvelle découverte macabre dans le territoire de Mambasa, nous sommes en Ituri. Des corps de civils ont été retrouvés hier jeudi à Badimboyo, une zone récemment touchée par des attaques attribuées aux rebelles des ADF. Dans le même secteur, aux environs du village de Tetouri, des habitants, parmi lesquels des enfants, sont portés disparus après des enlèvements. La société civile s'inquiète de la multiplication de ces violences. Jean-Claude Lokidile.
Dans le territoire de Mambasa, la situation sécuritaire reste préoccupante. Selon des acteurs de la société civile, plusieurs civils ont été enlevés ce dernier jour dans différentes localités touchées par les attaques attribuées au ADF. Aux environs de Tetouri, par exemple, au moins 8 personnes auraient été kidnappées dans un village situé à une quarantaine de minutes de ce centre de négoce. Leur sort pour l'instant reste inconnu. Ces violences provoquent de nouveaux déplacements de population. Des habitants fuient leur village pour rejoindre des zones qu'ils considèrent comme plus sûres, principalement le chef-lieu du territoire. La société civile a affirmé que certains incidents et rumeurs de présence des ADF suffisent désormais à provoquer la panique parmi les populations. Autre fait rapporté par ces acteurs, la découverte de plusieurs corps dans le secteur de Bandimoyo. Les victimes auraient été tuées lors d'une attaque attribuée aux ADF entre les 30 et les 31 juillet dernier. Les habitants retournés dans la zone après le déplacement de la population auraient découvert les dépouilles. La société civile appelle les autorités à renforcer la protection des civils face à la persistance des attaques et des enlèvements dans les territoires de Mambasa, Bunia. Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
C'est une nouvelle qui inquiète les humanitaires en République démocratique du Congo. Une nouvelle ligne vient d'être franchie dans la lutte contre Ebola. Les Nations Unies alertent sur la présence du virus dans des sites déplacés où survivent déjà des milliers de familles déracinées. Les opérations de surveillance se multiplient pour contrer la propagation de cette épidémie. Les points avec Joyce Massanka.
Ebola frappe désormais là où les populations sont le plus vulnérables, le camp des déplacés de guerre. Dans ces camps, de milliers de personnes cherchent refuge chaque jour. Mais aujourd'hui, une autre menace entre les tentes et les abris des fortunes. Ebola. Selon l'ONU, l'épidémie touche désormais certains sites accueillant des populations déplacées. Une évolution préoccupante alors que ces espaces sont souvent marqués par la surpopulation et un accès aux services de santé. Pour les humanitaires, les dons est double. Freiner la transmission du virus tout en continuant à répondre aux besoins vitaux des familles déplacées. Les opérations de surveillance et de sensibilisation ont été renforcées. Les équipes de terrain multiplient les efforts pour détecter rapidement les cas suspects et cassent les chaînes de transmission. Mais le temps joue contre la riposte. Les Nations Unies rappellent que sans moyens supplémentaires et sans accès sécurisé aux populations, le risque de propagation demeure élevé. Au cœur d'une crise humanitaire déjà profonde, Ebola ajoute aujourd'hui une nouvelle épreuve pour de milliers de familles congolaises.
La promotion du leadership féminin et de l'autonomisation des femmes au cœur de la rencontre entre autorités, partenaires et acteurs de la promotion des droits des femmes ici à Kinshasa. C'était à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale de la femme africaine, cérémonie couronnée par la remise des brevets de reconnaissance à plusieurs femmes pionnières, parmi lesquelles des ministres, des chefs d'entreprise et des femmes leaders pour leur engagement et leur contribution au développement de la République démocratique du Congo. Les détails avec Nancy Tambou.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les avancées réalisées et les défis à relever pour renforcer la participation des femmes dans les secteurs clés du pays. Dans son allocution, la première ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les actions en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur pleine participation au développement du pays.
Le gouvernement poursuivra son action afin de renforcer l'application effective des dispositions relatives à la parité, de consolider des mécanismes institutionnels prévues par nos lois et d'améliorer l'accès des femmes aux responsabilités publiques. Il poursuivra également ses efforts en faveur de l'éducation des filles, de la formation professionnelle, de l'autonomisation économique, de l'égalité des chances et du développement du leadership féminin.
Prenant la parole au nom des femmes distinguées, une pionnière a appelé les jeunes filles à croire à leur potentiel, à se former et à s'investir dans les sphères des décisions.
Le premier conseil que je donnerai à ces jeunes femmes-là, c'est d'être persévérantes, de croire en elles-mêmes, le lieu pour elles de se battre pour la concrétisation de cette parité que nous avons pu inscrire, nous les pionnières, dans la Constitution de la République.
La cérémonie s'est clôturée par la remise de brevets de reconnaissance aux femmes pionnières par la Première ministre.
Poursuivons ce journal en Mbujimayi dans les Kasaï orientales. Conduite automobile, menuiserie, travaux domestiques et sensibilisation à l'hygiène menstruelle figurent parmi les activités organisées dans le cadre d'une colonie de vacances qui réunit depuis quelques jours une soixantaine de jeunes élèves, dont cette fille de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Cette initiative, portée par un prêtre diocèse de Mbujimayi, vise à renforcer l'autonomie des adolescents et à développer leurs compétences pratiques. Des explications avec Esther Ndalafina.
Devant un simulateur de conduite automobile installé au centre d'accueil du diocèse de Mbujimayi, plus de 20 jeunes garçons apprennent la conduite automobile. Joël Muntu, un adolescent de 15 ans, concentré, les mains crispées sur le volant, à ses côtés, un encadreur lui souffle des instructions.
Ici, là, je suis en train d'apprendre comment conduire une voiture, démarrer et avancer, comment diriger les volants.
Dans une autre cour, les filles inscrites suivent un programme adapté. Mais au-delà des tâches domestiques, un module essentiel leur est consacré à la menstruation, l'éducation à la vie et plusieurs sujets longtemps considérés comme tabous dans les familles. Agnès Moussouamba a appris à torchonner correctement les carreaux d'une maison.
On a balayé, on a commencé à torchonner. On a fait avec le sabbat et l'eau.
Pour Abbé Simon Mandungo, prêtre initiateur, cette colonie des vacances répond à un besoin réel.
Ils apprennent la notion de la santé, de la prévention, de la sécurité, selon les domaines qui les intéressent.
Selon les encadreurs, cette colonie vise à offrir aux jeunes un espace d'apprentissage utile, loin des loisirs passifs, et à leur transmettre des compétences pratiques pour leur avenir. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kisangani, l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue dans le quartier du marché de la commune de Tchopo connaît une baisse significative du nombre de ses pensionnaires. Selon les responsables de l'établissement, sur les 55 personnes prises en charge en 2022, seules 13 y résident encore aujourd'hui. Cette diminution s'explique en grande partie par la vétusté du centre et par le manque de prises en charge adéquates, notamment sur le plan nutritionnel. Le chef de division chargé du Homme des Vieillards souligne que ces conditions fragilisent davantage la survie et le bien-être des occupants. Gérald Lifenia Bossosila, dans cet extrait choisi par Pepe Lissungi de la radio Beko FM, station partenaire des radios Okapi à Kisangani.
Nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté, à toutes les institutions, d'avoir une passe-pieds à cette catégorie de personnes qui passent la vie dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi ces bâtiments, conçus depuis 1950 ou 1955, nécessitent normalement une réhabilitation totale. Je crois qu'à travers votre radio, vous pouvez lancer un message à tous les hommes de bonne volonté de venir en aide à l'hôpital de Via, à la division des hommes de Via, qui éprouve d'énormes difficultés pour l'accadement des personnes de troisième âge.
L'Office des voies de desserte agricole OVDA Kasaï Central annonce avoir entretenu 268 km de route de desserte agricole au cours du premier trimestre 2026. Ces travaux ont été réalisés grâce au financement du Fonds national d'entretien routier, FONER. Objectif, améliorer la mobilité des populations rurales et faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les marchés. Les territoires de Dibaya, Dimbelenge, Kazumba et Luisa, ainsi que l'Interland de Kananga ont bénéficié de ces travaux. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
Sur la route Kanyuka-Kasasa, Gustave Kankonde enfourche chaque jour son vélo pour transporter ses récoltes. Pendant longtemps, cette route lui compliquait la vie. Aujourd'hui, il circule plus facilement grâce aux travaux d'entretien réalisés par l'Office des voies de desserte agricole. Cette route est entretenue, aujourd'hui nous pouvons bien passer. Mais il y a un problème parce qu'elle commence à se dégrader. Nous invitons les autorités à assurer son entretien régulier. De nombreux agriculteurs du Kasaï central profitent des routes plus praticables. Les motos roulent avec moins de difficultés, le véhicule atteigne plus facilement le village. Les récoltes sont évacuées vers le marché sans beaucoup de difficultés. Pour préserver ces routes, l'Office des voies de desserte agricole indique avoir installé des comités locaux d'entretien sur chaque axe réhabilité. Leur mission est d'assurer un entretien régulier afin d'éviter de nouvelles dégradations. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée TVA ont augmenté d'environ 17% au cours des trois derniers mois. Le ministre des Finances l'a annoncé hier jeudi à Kinshasa à la clôture des trois jours de clinique fiscale consacrée à la facture normalisée. Doudou Fouamba attribue cette progression à la mise en œuvre de cette réforme qui vise à maîtriser la TVA collectée et à lutter contre la fraude. Le gouvernement annonce également une application qui permettra aux consommateurs de vérifier si la TVA payée par l'heure sur leurs achats a bien été enregistrée et reversée au trésor. Jocelyne Moussa Opondé nous en dit plus.
Cette progression des recettes intervient donc dans un contexte de mise en œuvre de la facture normalisée.
Nous sommes partis d'une moyenne de 280 à 290 milliards de francs à aujourd'hui 340 milliards. C'est très largement en dessous du potentiel que nous ciblons dans le cadre de cette réforme. Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA.
La facture normalisée, c'est une facture délivrée selon un modèle et des règles fixées par l'administration fiscale avec des éléments permettant d'identifier et de tracer la transaction et la TVA qui y est liée. Le gouvernement veut aussi faire du consommateur un acteur du contrôle. Une application doit prochainement lui permettre de vérifier si la facture reçue est normalisée et si la TVA qu'il a payée a bien été enregistrée auprès du trésor public. Les cliniques fiscales ont, elles, permis aux opérateurs économiques de soumettre leurs difficultés et de finaliser leur mise en conformité. Pour le gouvernement, cette phase d'accompagnement est désormais terminée.
Avec ces cliniques, nous venons siffler la fin du moratoire parce que nous en avons assez donné. La Direction générale des impôts a été instruite de procéder immédiatement à des sanctions ciblées pour des entreprises dont nous avons des informations sur les pratiques de fraude à la TVA.
Le gouvernement entend ainsi passer de l'accompagnement à l'application des mesures prévues par la loi.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, à moins de 5 mois des premières élections prévues depuis l'indépendance, les Nations Unies dressent un constat alarmant. La violence s'intensifie, la transition politique s'enlise et les conditions d'un scrutin crédible sont loin d'être réunies. Le pays est à la croisée des chemins, alerte l'Organisation des Nations Unies.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur de l'ONG SAV, Secours aux Vulnérables, basé à Goma, au Nord Kivu. Espoir Kikuni parle du nouveau manuel publié par cette organisation sur les premiers secours psychologiques et le soutien psychosocial en milieu scolaire face au traumatisme vécu à l'est de la RDC. Cet ouvrage est le fruit d'une campagne de soutien psychosocial menée depuis avril 2025 à Goma et dans les territoires voisins. Espoir Kikuni s'entretient avec Bernard Nyangi.
Monsieur Espoir Moussagi, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Votre organisation Secours Vulnérables venait de produire un ouvrage intitulé « Les premiers secours psychologiques et soutien psychosocial en milieu scolaire face au traumatisme vécu à l'est de la RDC ». Pourquoi avoir choisi ce titre?
Cette motivation est due à l'expérience que nous avions connue dans les différentes écoles dans lesquelles nous sommes passés pour mettre en place un programme de santé mentale en milieu scolaire. À la fin de ces programmes, nous avions compris qu'il y a un problème sérieux qu'il ne fallait pas prendre comme théorie, mais il fallait réunir toutes ces données, ces éléments, les réunir et en faire l'objet d'un ouvrage. C'est pourquoi nous avions proposé cet ouvrage qui commence par « Observer, écouter, orienter » dont le titre c'est « Les premiers secours psychologiques et soutien psychosocial et en milieu scolaire face au traumatisme à l'est de la République démocratique du Congo ».
Vous dites que c'est un manuel de formation, donc vous avez réuni les éléments avec un objectif de formation.
Exactement.
Ciblant qui?
Nous ciblons les acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les conseillers d'orientation, les chefs d'établissement et d'autres partenaires de l'éducation. Et ce programme ici vise à former tous les acteurs de l'éducation en matière de premiers secours psychologiques et au soutien psychosocial pour lutter contre les traumatismes qui guettent les enfants au lieu de se concentrer à l'école.
Qu'est-ce qui est contenu à l'intérieur? C'est combien de chapitres? Que je signale déjà, qui est de 191 pages.
Oui. À part l'introduction, les objectifs, dédicace, nous avions réuni 8 chapitres, les tout premiers chapitres de premier secours psychologique. Quelles sont les 3 actions fondamentales des premiers secours psychologiques, comme c'est intitulé même à la page des gardes. Observer, écouter, orienter. Dans ce chapitre aussi, on essaye un peu de parler des principes. C'est vrai, le monde humanitaire a ses principes, mais aussi la prise en charge psychologique a ses principes. Parmi lesquels on peut parler de la confidentialité, on peut parler de l'accueil, on peut parler de la neutralité, l'impartialité, le respect de la dignité humaine. Ce chapitre au moins se focalise sur ça. À part ce chapitre, on a proposé aussi le chapitre qui est lié à la santé mentale. On essaye un peu de montrer le cercle qui montre le bien-être mental des élèves, des enseignants et de la communauté, où nous commençons par l'individu. Si l'individu a un bien-être mental, on peut voir aussi sa famille restreinte, la famille élargie, la famille professionnelle et la communauté tout entière. Et là, ce chapitre essaye un peu de montrer quelles sont les situations qui peuvent plonger l'enfant en détresse ou qui ne peut pas être en bonne santé mentale. Troisième chapitre qui parle du traumatisme. Ce que c'est que le traumatisme, quels sont les types de traumatisme et c'est quoi la procédure à suivre pour essayer un peu de faire face, les étapes à suivre. Surtout dans ce livre, on a parlé de 12 étapes. Parmi lesquels on encourage l'élève à parler de son traumatisme, à demander de l'aide, à vivre avec le traumatisme, prendre soin de soi et d'autres étapes comme je l'ai souligné. Mais aussi on a fait allusion à la protection de l'enfant. On a essayé un peu surtout de souligner le point lié à la vulnérabilité. Quelles sont les conditions qui font à ce qu'un enfant soit vulnérable? On a parlé aussi des violences basées sur le genre et les violences numériques. Ce sont des situations qui sont fréquentes dans les différentes écoles. Mais aussi, on a parlé d'un autre chapitre numéro 6, le leadership, qui permet une bonne communication entre les enseignants, le chef, les enseignants avec les élèves, et quel style de leadership que les communautés scolaires doivent adopter pour essayer un peu de permettre la bonne chance des élèves de grandir dans un lieu protecteur. On a proposé aussi un chapitre qui est lié au bien-être des intervenants. Vous savez, il y a des problèmes d'abord du personnel qui se déversent aux élèves, étant donné que les élèves ont leur charge, les enseignants aussi en ont le leur. Et le gros de ce chapitre, si on parle de staff care, il s'agit de prise en charge du personnel pour promouvoir le bien-être mental en milieu du travail. Et à part ça aussi, on a proposé quelques dispositifs de la prise en charge psychologique.
C'est un manuel de formation qui n'est pas encore publié. Oui. Est-ce qu'il y a des perspectives par rapport à ça?
Oui, parce que ça c'est le tout premier ouvrage, mais nous avons encore un projet de continuer aussi à produire d'autres ouvrages, mais surtout avec ça, nous voulons publier aussi ça. que ce soit un ouvrage qui va aider du point de vue national, que ce soit un outil d'investir dans la protection de l'enfance du point de vue santé mentale en République démocratique du Congo.
Monsieur Espoir Moussagi, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le coordonnateur de l'ONG SAV Secours aux Vulnérables basé à Goma, au Nord Kivu, Espoir Moussagi Kikuni, notre invité, s'entretenait avec Bernard Nyangui. Fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.